Savez-vous que nous partageons un ancêtre commun avec les champignons, daté d'environ 1 milliard d'années? C'est ce que nous allons découvrir et bien d'autres choses surprenantes sur la place de l'humain dans la nature. Bonjour à toutes et tous. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'inaugurer une nouvelle collection de notre série Les Causeries dédiée aux sciences de la vie et de la terre. Alors, ce premier chapitre sera consacré plus particulièrement à l'homme et à la place de l'homme dans la nature. Pour cela, nous recevons Alain Froment. Bonjour Alain.
Bonjour cher Joël.
Alors j'ai un grand plaisir vraiment à vous recevoir parce que vous êtes un homme tout à fait exceptionnel avec une carrière incroyable. Je vais vous demander déjà pour commencer de vous présenter en quelques mots.
Oh, je suis tout simplement médecin spécialisé en médecine tropicale et j'ai fait un doctorat d'anthropologie biologique. Donc je me suis intéressé à l'évolution de notre espèce en tant qu'espèce animale et ma carrière s'est déroulée beaucoup dans le cadre de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, bien connu à La Réunion. Et maintenant que je suis retraité, donc émérite, je suis donc directeur de recherche émérite à l'IRD. Et j'ai pendant longtemps été responsable des collections d'anthropologie du Musée de l'Homme. Et j'enseigne toujours au Musée de l'Homme à Paris.
Oh, bienheureux étudiant. Alors, aujourd'hui, nous allons en particulier évoquer, pour commencer, l'anthropologie. Alors, je vous propose de la définir.
Oui, c'est un mot qui est un peu vague et donc ça veut dire tout simplement discours sur l'homme. Et on voit sur la diapo qu'il y a en fait deux branches qui sont l'anthropologie biologique et l'anthropologie culturelle, celle qu'on connaît le mieux, la socio-anthropologie, donc ethnologie, ethnographie, etc. dans l'ancien vocabulaire. Mais c'est surtout ça qu'on connaît avec Lévi-Strauss, avec maintenant Philippe Descola au Collège de France. L'anthropologie biologique est moins connue malheureusement, alors qu'elle est importante. Donc ici, pour les besoins de la cause, je l'ai divisé en trois branches qui sont la paléoanthropologie. Alors ça, Yves Coppens l'a beaucoup vulgarisé. Donc c'est tout simplement la recherche de nos origines par
avec
les fossiles.
Lucie.
Bien sûr, mais on en reparlera. Une deuxième branche, c'est la primatologie. On a notamment au Musée de l'Homme beaucoup de primatologues qui observent nos cousins, les chimpanzés, les gorilles, dans la nature, dans les zoos également, mais dans la nature, c'est beaucoup plus intéressant pour en apprendre davantage sur les origines des sociétés, puisque génétiquement, ce sont nos plus proches parents. Et puis ma discipline propre, en raison notamment de mon parcours médical, c'est de la biologie humaine. Donc elle peut s'appliquer au vivant. Donc on va mettre en action la génétique, l'épidémiologie, etc. On peut également l'appliquer au squelette récent, ce qu'on appelle la bioarchéologie. C'est-à-dire que quand on trouve un squelette, on peut raconter toute son histoire, les maladies, la nutrition, les activités, en étudiant les os. Donc ça, c'est d'une façon générale, c'est ça l'anthropologie biologique.
Bien, écoutez, merci beaucoup de ces précisions. Alors, nous avons comme titre de notre émission La place de l'homme dans la nature. Alors, parlons donc de ce qui fait de nous des hommes, de ce qui nous différencie des autres animaux, par exemple.
Voilà. Alors, au Musée de l'Homme, où j'exerce, donc, nous avons un parcours qui commence par cette définition. Qu'est-ce que c'est que d'être humain ? C'est d'avoir un gros cerveau, c'est de parler des langues, etc. Mais tout ça, c'est la conséquence d'une particularité importante, pratiquement unique, la bipédie. C'est-à-dire que nous marchons debout et c'est ce mécanisme de bipédie qui a finalement généré tout le reste, la libération de la main, l'augmentation du volume cérébral, etc. Donc on en revient aux origines, vous voyez, à Platon qui disait déjà que l'homme est un animal bipède. Et puis mon maître, André Leroy-Gourhan, du Musée de l'Homme également, qui a rappelé, non sans humour, que l'humanité avait commencé par les pieds, c'est-à-dire que c'est en se redressant que l'histoire de l'homme a commencé.
Oui, on voit que c'est tout à fait caractéristique de l'humain, et effectivement, mais on a quand même des surprises un peu quand on regarde l'histoire eh bien, des ornithologues qui ont parfois des comparaisons étonnantes.
Oui, alors en faisant des recherches, je suis tombé sur cette gravure qui remonte à Henri III, en 1555. Et donc, premier traité d'ornithologie par Pierre Belon. Donc c'est un traité sur les oiseaux, mais il a un moment l'idée, voyez, de suspendre un oiseau, disons un poulet, dans la même attitude qu'un squelette humain, comme on voit d'habitude sur les potences. Et là, je pense que lui-même a dû avoir une espèce d'illumination en voyant comment ces deux squelettes sont homologues, c'est-à-dire que toutes les parties correspondent. Et pourtant, quand on voit un poulet, il ne nous vient pas à l'esprit immédiatement qu'il est bâti comme nous. Donc la réflexion d'aujourd'hui, dans cette causerie, ça sera sur ce qu'on appelle le body plan, le plan corporel. Comment nous avons un plan corporel qui nous relie à d'autres animaux dans la nature.
Ah oui, c'est tout à fait passionnant parce que là, on est à des années-lumière de Darwin en termes de siècle et on trouve cette image qui est très, très étonnante. Alors, voyons donc un peu nos liens de parenté dans la nature.
300 ans avant Darwin, 200 ans avant Buffon. Alors évidemment, nos plus proches cousins, je le disais, ce sont les bonobos et les chimpanzés. Donc ils ont quelque chose de très humain dans leur comportement, dans leurs sentiments. On est proche. Et voyez sur la physionomie, effectivement, entre la face d'un chimpanzé et une face humaine, on a une correspondance exacte. Et puis vous avez en bas à droite cette dame qui est face non pas à un chimpanzé, mais à la reconstitution d'un australopithèque. Et vous voyez ce face-à-face à 3 millions d'années d'écart et cette réflexion qu'on peut avoir sur nos origines.
Oui, oui, c'est tout à fait étonnant et c'est vrai que bien on va parler un petit peu de tout ce qui fait finalement du schéma général qu'a donné la nature à ces êtres vivants.
Bien sûr. Et donc, on a dans le monde un vaste projet, l'arbre de la vie, un tree of life, qui est tout simplement basé sur les séquençages ADN de tout ce qui est vivant sur la Terre. Et vous voyez, ça, ce sont les travaux de mes collègues du muséum. Le Guyader, Le Cointre et Lopez Garcia. Donc, ce sont des taxonomistes. Hein. Ils font un catalogue du vivant et ils relient les espèces vivantes entre elles. Donc, vous voyez que cet arbre de la vie, c'est un trèfle, en fait, avec trois feuilles. Les deux feuilles du bas, ce sont les bactéries et les archées. Les archées, ce sont aussi des bactéries, mais primitives, qui vivent dans des milieux extrêmes. Vous voyez que dans le vivant, et encore là, il n'y a pas les virus, parce que les virus ont un statut un peu à part, dans la mesure où ils sont semi-vivants. Ils ont besoin de cellules vivantes pour se reproduire. Donc, les virus, c'est également très important dans la nature. Mais là, vous voyez la place que peuvent occuper les bactéries. C'est énorme, puisque c'est la troisième feuille du trèfle qui contient tout le reste. Et dans le reste, on a ce petit secteur-là, ce sont toutes les plantes. Vous voyez qu'elles n'occupent pas tant de place que ça dans l'arbre du vivant. Ça, ce sont plutôt les protozoaires, tous les animaux vraiment un peu simples. Et puis, les animaux plus complexes, les métazoaires, donc ceux qui ont plusieurs cellules, ils sont cantonnés dans ce petit secteur rose-là. Donc c'est aussi une assez faible portion du vivant. Et vous disiez en introduction qu'on a un ancêtre commun avec les champignons. Effectivement, il est là. Alors, en fait, il faut partir de l'origine. Ici, donc, c'est un ancêtre putatif de tout ce qui est vivant. Donc on l'imagine, bien sûr, on ne trouvera jamais son fossile. Mais la première forme vivante, on l'appelle Luca, Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun à tout ce qui est vivant. Et on le date à peu près à 3,5 milliards d'années, c'est-à-dire à peu près 1 milliard après l'apparition, la formation de la Terre. Il a fallu plus d'un milliard d'années pour que l'inanimé se transforme en animé. Et les chercheurs travaillent beaucoup sur cette origine de la vie qui reste encore un peu mystérieuse. Et puis donc avec l'évolution, la complexification, on arrive à ces branchements. Et le dernier ancêtre commun entre les champignons et les autres animaux, si on peut dire, il date d'un milliard d'années. Et pourquoi on sait que les champignons ne sont pas des végétaux, malgré ce qu'on pourrait croire? D'abord parce qu'ils ne vivent pas avec la photosynthèse, on peut les élever dans l'obscurité. Et puis, un certain nombre de leurs protéines sont partagées avec des invertébrés, la chitine notamment, qui fait la rigidité des insectes. On la trouve aussi chez les champignons. Et puis on les appelle les opisthocondres parce que tout simplement, ils ont ce qu'on appelle le moteur à l'arrière, c'est-à-dire dans leur gamète, comme dans le spermatozoïde humain, le flagelle est à l'arrière. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait, dans ce qu'on appelle la cladistique, hein, cette classification du vivant qui repose sur des branchements et sur des caractères partagés, c'est pour ça qu'on s'est trouvé cet ancêtre commun avec les champignons, ce qui nous rend un peu modeste, effectivement.
Avec un moteur à l'arrière, effectivement, tout à fait. Alors, on va continuer notre chemin d'évolution et faire un petit peu quelques comparaisons. C'est vrai que c'est intéressant, il est vraiment particulièrement intéressant de voir la place de l'humain, comment l'humain se situe dans la nature, quelles sont les parentés, en fait, au sein de cette nature. On voit notamment dans l'évolution et le développement des individus les parallèles que l'on peut faire.
Oui, cet arbre de la vie nous situe par rapport aux autres êtres vivants. Et les travaux des embryologistes du 19e siècle ont insisté, notamment Haeckel, qui est l'auteur du mot « écologie », entre autres. Donc il a fait un parallèle entre les embryons très jeunes et donc différentes espèces, ici vous voyez, poissons, salamandres, tortues, poulets, lapins, humains. Alors ce schéma, il a vieilli. Les embryologistes ont convenu que c'était un peu arrangé quand même hein, maintenant. Mais je le montre parce que historiquement, il est important. Et donc la leçon à en tirer, c'est que quand on parlait des spermatozoïdes tout à l'heure, donc au début de la fécondation, les premières divisions cellulaires, effectivement, elles sont communes à tous les vertébrés. Et puis avec les jours et les semaines qui s'écoulent, évidemment, la différenciation se fait, de sorte qu'on aboutit finalement à un poisson ou à un humain. Mais les formes précoces sont comparables. Et donc c'est ce qu'on appelle l'évo-dévo. Évo pour évolution donc des espèces, la phylogénèse. Et puis dévo, c'est le développement individuel après la fécondation, donc l'ontogénèse. Il y a donc une espèce de parallèle entre l'histoire biologique des espèces et l'histoire des individus dont on disait autrefois qu'elle récapitulait, ça n'est pas tout à fait vrai, mais qu'elle récapitulait la phylogénèse. En tout cas, cette diapo, elle est quand même assez démonstrative pour voir que nous sommes très proches parents les uns des autres en tant que vertébrés.
Oui, ça resitue l'homme vraiment dans la nature. Alors, on va avancer un petit peu dans cette évolution et le développement des individus et voir plus particulièrement au niveau génétique ce qui se passe par ailleurs.
Oui, donc on parlait d'ontogénèse, donc ce développement du corps, du body plan, du plan corporel. Et curieusement, on s'aperçoit que dans des animaux qui ont l'air très éloignés de nous, et notamment des invertébrés cette fois-ci, comme les mouches, eh bien nous avons un parallélisme dans le développement. Du point de vue génétique, c'est gouverné par des gènes qu'on appelle les gènes Hox et qui sont alignés sur le chromosome. Et quand l'embryon se développe de la tête à la queue, ce sont ces gènes-là qui sont lus. Alors en haut, on voit une drosophile, hein, une mouche, la mouche qui sert beaucoup en génétique, avec les gènes ancestraux et ces gènes à elle qui sont proches de l'ancêtre commun entre la mouche et nous. Et on voit maintenant en bas un fœtus humain. Et là, on voit que chez l'humain, ces gènes, ils se sont d'abord dupliqués, puis ensuite redupliqués. Donc, ils ont été recopiés et multipliés par 4. Mais on voit que, par rapport à la drosophile, le parallélisme est absolu. Donc là encore, c'est une homologie. Et vous voyez, donc, de la tête à la queue, chez l'embryon humain, le parallélisme avec la mouche. En fait, ce plan corporel, on peut dire que dès qu'on a un animal qui a un axe longitudinal, c'est-à-dire qui va de la bouche en avant à l'anus à l'arrière, qui a un côté droit, un côté gauche, qui a un dos et un ventre, eh bien, nous avons le plan corporel que nous partageons avec énormément de formes vivantes, y compris des invertébrés.
Oui, c'est tout à fait passionnant de voir ces similitudes. Alors, effectivement, on va voir à présent, maintenant, dans les évolutions dans ce plan corporel et les évolutions qui se font tout au cours des différents millénaires et des différentes apparitions des espèces.
Voilà. Alors, sur cet embryon, on note que les gènes Hox, ils n'interviennent pas sur ce qu'on appelle le télencéphale, c'est-à-dire sur le cerveau, l'extrémité du cerveau. Ces gènes sont très anciens. reptiliens, donc, puisqu'on les partage avec les invertébrés, et le développement cérébral, qui fait notamment le propre de l'humain, mais aussi des mammifères, il est postérieur au gène Hox, et c'est ça qu'on a gagné en quelque sorte dans l'évolution. Mais tout ce qui est postérieur, donc, c'est un schéma vraiment ancien. Alors, effectivement, on peut décliner cette évolution en termes d'arbres, d'arbres phylogénétiques. Alors ça, c'est une diapo sur laquelle on pourrait passer du temps, on va la simplifier, mais c'est pour montrer qu'à chaque embranchement du vivant, s'est produite une innovation. Par exemple, on part du bas des animaux qu'on appelle les craniates. Nous sommes nous-mêmes des craniates. Il y a des animaux qui n'ont pas de crâne. Et puis à un moment, le crâne se structure justement pour protéger le cerveau. Donc c'est une première étape. Et vous voyez ce branchement qui va vers les requins. Ça, ce sont donc des vertébrés, mais qui ont un squelette cartilagineux. D'accord. Et l'innovation postérieure, c'est l'ossification du squelette. Vous voyez, squelette en os, c'est-à-dire que le poisson ordinaire, la truite qu'on a dans nos assiettes, elle, c'est un poisson osseux. C'est-à-dire que le squelette est calcifié, ce qui n'est pas le cas des requins. Ensuite, on a donc la sortie de l'eau, les tétrapodes, hein, ceux qui ont quatre pattes. Et donc c'est avec cette innovation sur laquelle on reviendra, l'apparition de quatre membres, qu'on a donc les amphibiens, etc. Et même les reptiles qui, en fait, postérieurement ont perdu leurs pattes, mais qui en avaient. Et ainsi de suite, comme ça. Alors l'amnios, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi, l'apparition d'un amnios dans le développement embryonnaire. Et on pense maintenant que c'est un virus qui s'est incorporé dans l'ADN de nos ancêtres et qui a un virus syncytial qui a donné cette innovation.
Donc, alors l'amnios, moi je vois une parenté avec le liquide amniotique, expliquez-nous ce que
c'est
ce qui est précisément.
C'est la bulle dans laquelle se développe l'embryon.
D'accord.
Et donc il y a des animaux qui n'ont pas d'amnios, notamment les poissons, et puis tout ce qui est amphibien, etc. Et puis nous qui sommes des animaux amniotiques. Et ainsi de suite, on décline comme ça. Et à la fin, vous voyez, par exemple, ce qui nous sépare de l'homme et des autres singes, hein, puisque nous sommes des singes nous-mêmes, c'est la perte de la queue. Donc chez les petits singes, ce qu'on appelle monkey en anglais, ce sont des singes à queue comme les cercopithèques. Et puis les grands singes, qu'on appelle ape en anglais, ils ont perdu leur queue. Donc les gibbons, les orang-outans en Asie, les gorilles, les chimpanzés en Afrique n'ont plus la queue préhensile. Ils ont un vestige de queue que nous avons aussi qui s'appelle le coccyx. Et donc pareil, dans notre développement embryonnaire, à nous humains, on a à un certain moment une petite queue et puis elle se résorbe. Et c'est ce souvenir évolutif qu'on a au niveau du coccyx qui nous rappelle que ce sont des vertèbres compactées d'une ancienne queue. Et tout récemment, on a trouvé l'origine de cette perte de queue. Et c'est un seul gène, en fait, une simple mutation qui a éliminé la queue. Donc voilà comment, d'innovation en innovation, on voit se structurer cet arbre de la vie.
Ah oui, c'est extraordinaire. On voit vraiment toutes les embranchements qui ont pris et qu'a pris l'évolution. Alors, on parlait tout à l'heure, là, vous évoquiez bien l'apparition de quatre membres, notamment chez la grenouille. C'est ce que l'on va voir à présent avec les proximités de nos différents squelettes.
Voilà, donc ces homologies dont on parlait, on les voit assez bien. Bon, prenons au milieu justement un squelette de truite. Donc c'est un crâne avec des yeux, des narines, une bouche, hein, tout comme nous. Un axe qu'on appelle la corde, C-H-O-R-D-E. Donc nous sommes des cordés, c'est-à-dire que nous avons un axe rigide qui nous soutient. Donc on le voit chez la truite et chez nous c'est le rachis, hein, c'est la colonne vertébrale. Et puis ce qui nous différencie du poisson, c'est que le poisson a des nageoires et que nous avons des membres. Mais effectivement, les amphibiens ont des pattes. Et quand on voit, par exemple, ce mannequin, là, à gauche, il nous semble humain pour la simple raison qu'il est homologue avec nous. Donc on voit très bien, ça a été montré dans le bébé de show, quand on montrait des gens en forme de grenouille. La grenouille nous parle, parce que la grenouille, elle est comme nous. Elle nous rappelle exactement notre body plan, notre plan corporel.
Oui, même si au départ, on n'y pense pas forcément. Alors tout à l'heure, vous évoquiez les poissons à pattes, hein, qui ont perdu leurs pattes. Alors là, on a encore quelques jolis exemples de subsistance, de ce souvenir de pattes.
Oui, on voit donc que les poissons dans l'eau ont des nageoires et nous avons, nous, des membres. Les paléontologues, et notamment Neil Shubin, qui est un collègue américain très intéressant, ont cherché les formes intermédiaires fossiles. Parce que vous voyez ici sur cette diapo, on a des poissons qui ont des nageoires un petit peu en forme de patte dans la mesure où ils marchent un petit peu sur le fond de l'eau. Mais ce ne sont pas des vraies pattes. Et on sait que la sortie des eaux, donc l'apparition des tétrapodes, ça se situe à peu près au Dévonien. Donc dans une tranche d'âge d'à peu près 375 millions d'années. Donc Neil Shubin, c'est ça qui est intéressant dans les anecdotes fondatrices de la paléontologie. Il s'est dit, je vais chercher le poisson qui a commencé à avoir des pattes. Donc je vais chercher sur la carte géologique de la Terre des affleurements de cette époque-là. Il en a trouvé au Groenland. Donc il est parti avec son marteau. Et le miracle est qu'il a trouvé effectivement ce semi-poisson, donc, qui s'appelle le tiktaalik, parce que c'est un mot inuit, hein, qui veut dire créature des eaux, parce qu'il était justement chez les Inuits. Et donc c'est déjà la préfiguration de la sortie des eaux. C'est-à-dire que, vous voyez, ses pattes se sont renforcées. Elles sont plus solides et donc elles ont un appui. Et le problème de la sortie des eaux, c'est qu'on découvre la gravité. Dans l'eau, on est en apesanteur presque, mais quand on doit marcher sur la terre, les pattes doivent être reliées justement à l'axe du corps avec des ceintures, la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne, pour transmettre le poids du corps au sol. Et donc il faut évidemment d'autres adaptations, notamment le fait de respirer à l'extérieur. Mais on connaît des poissons amphibies qui peuvent respirer dans l'air et respirer dans l'eau. En tout cas, le tiktaalik, c'est un de nos ancêtres, c'est le premier qui montre une propension à marcher et donc à sortir. Parce que quand vous êtes dans l'eau et que vous avez des prédateurs, vous avez plusieurs stratégies. L'une, c'est de grossir, donc d'être plus gros, et une autre, c'est de fuir, c'est-à-dire de sortir de l'eau. Et c'est certainement cette pression de sélection qui a fait que ces poissons, qui étaient déjà armés pour marcher sur le fond de la rivière ou de la mer, ont pu s'échapper. Et donc, ce sont les premiers tétrapodes qui ont été les descendants du tiktaalik.
Alors, on va découvrir un petit peu cette évolution et les similitudes qu'on peut trouver dans les membres supérieurs, justement.
Oui, c'est assez frappant quand on les présente comme ça. Vous voyez en haut à gauche, donc c'est ce premier poisson du Dévonien qui commence à avoir des membres. Et les autres, bon, c'est des espèces, donc soit des amphibiens, soit alors l'archéoptérix, qui est un des premiers oiseaux, donc un petit dinosaure. Son descendant, le poulet, qui est aussi un petit dinosaure, et puis l'humain. Et vous avez en marron le cubitus, qu'on appelle l'ulna maintenant, et en vert le radius. Et on parlait d'homologie tout à l'heure, mais vous voyez, c'est frappant sur cette diapositive, mais nous sommes donc tous bâtis de la même façon. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de Pierre Belon, 1555, avec son poulet et son homme. On a le membre qui est exactement celui de nos ancêtres du Dévonien qui sont sortis de l'eau.
Ouais, c'est passionnant. On voit là vraiment sur ce schéma, on voit parfaitement toutes les similitudes qui nous relient à la fois aux animaux d'aujourd'hui et aux animaux préhistoriques. Alors, autre partie du corps, le pied.
Oui, parce que cette homologie, donc, elle touche les mains. Et beaucoup de vertébrés, même des lézards, ont 5 doigts comme nous. Et finalement, notre main, qui a un pouce opposable pour saisir les branches, elle est très semblable à celle des autres primates, si ce n'est que ces primates-là, donc les gorilles, les chimpanzés, sans parler des cercopithèques et autres, tous les singes sont des grimpeurs et ils sont ce qu'on appelle des quadrumanes, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas 2 mains et 2 pieds, mais plutôt 4 mains. Et donc, le remarquable chez nous, c'est la structure du pied. Donc, c'est ce que Vinci désignait comme un modèle d'ingénierie, puisque ce pied doit porter l'ensemble du corps. C'est ça, la bipédie, c'est ça qui nous caractérise. Et quand on voit les autres mains ou pieds de nos mammifères, eh bien, ils ont cette déclinaison des 5 doigts. Donc, chez l'orang-outan ou chez le gorille, c'est assez proche de la main humaine. Chez d'autres espèces, les doigts peuvent se spécialiser. Par exemple, le cheval à droite, il ne court que sur un doigt. Il a deux doigts latéraux qu'on appelle les os canons, qui sont vestigiaux. Et puis les doigts les plus extrêmes, eux, ont disparu chez l'adulte. Mais on les voit quand même très bien chez l'embryon de cheval. Donc tous ces animaux-là ont cinq doigts et ensuite se spécialisent. Bon, les porcs marchent sur deux doigts, etc. Mais le schéma de base, c'est toujours le schéma à cinq doigts. Ce qui est remarquable dans l'espèce humaine, c'est qu'on a un pied qui ne ressemble pas du tout à une main. Et nous sommes en fait ce qu'on a appelé un singe coureur. Oui. Nous sommes des primates, bien sûr, mais nous sommes les seuls singes capables de courir. Vous voyez, les gorilles et les chimpanzés, on a dit qu'ils nous ressemblaient beaucoup, mais ils sont très mal à l'aise en tant que bipèdes. Ils dandinent, vous voyez, ils sont quand même plus à l'aise quand ils marchent. Alors, ils ont une façon de marcher avec leur phalange, donc du membre antérieur replié, ce qu'on appelle le knuckle walking, hein, la marche sur les phalanges. Mais ils sont plus à l'aise quand même comme quadrupèdes que comme bipèdes. Les bonobos sont un peu plus bipèdes que les autres chimpanzés, mais malgré tout, ils sont incapables de courir. Et nous, notre niche écologique, en quelque sorte, dans les premiers temps de l'hominisation, ça a été de conquérir la savane en pouvant courir et en pouvant attraper à la course les autres animaux. Alors ça, c'est une longue histoire qui met en cause la thermorégulation. Je serais content de la raconter dans un autre cadre, mais tout ça est lié à la bipédie.
Ah, mais volontiers. Donc on voit bien l'importance de la bipédie. Néanmoins, eh bien, dans les classifications, nous restons dans le domaine des primates, c'est ça, dans la partie primate.
Oui, ce qui est remarquable, c'est que quand... le premier taxonomiste, on peut dire vraiment, qui ait laissé une œuvre monumentale, Carl Linné, un Suédois, à l'époque des Lumières, a entrepris sa classification, donc son système de la nature. La première édition, c'est 1635. Il a voulu mettre une étiquette sur tout ce qui était vivant. Et Linné était un croyant, un luthérien. Il n'était pas du tout un évolutionniste, hein, alors que son contemporain Buffon, lui, avait des vues plus souples à cet égard. Mais peu importe. En tout cas, Linné voulait célébrer la création divine. Donc, puisque Dieu a créé tout ce qui est vivant dans la nature, eh bien, pour célébrer cette œuvre, on va essayer d'en faire le catalogue. Donc, c'est lui qui a entrepris ce catalogue, qui n'est jamais fini, hein, que tous nos collègues taxonomistes poursuivent, puisqu'on découvre des nouvelles espèces tous les jours. Et il a inventé ce qu'on appelle la classification binominale, qu'on utilise aussi toujours, c'est-à-dire un nom de genre et un nom d'espèce. Par exemple, chez le chien, Canis, genre canin, espèce domesticus, le loup, canis, lupus, etc. Et donc, au lieu de créer un règne humain à côté du règne animal, ce qui aurait été finalement compréhensible de la part de quelqu'un qui est religieux, non, il a souhaité inclure l'homme dans le règne animal. Et donc l'inclure dans un taxon qu'on appelle effectivement, qu'il a appelé les primates, c'est-à-dire les premiers quand même, mais parce qu'il a vu aussi que les singes, d'une façon générale, pas seulement le singe humain, avaient des comportements vraiment complexes et donc qui méritaient peut-être à ses yeux la première place. Et à son époque, on a encore beaucoup de récits de voyageurs qui sont incertains, notamment des observations justement de grands primates. Orang-outan à Bornéo, ça veut dire homme des bois. Donc les voyageurs qui revenaient de ces contrées-là racontaient qu'il y avait des espèces d'hommes sauvages, on ne savait pas trop bien. Donc pour les ranger dans ces catégories, Linné a créé Homo monstrosus. Et en fait, ça inclut beaucoup de primates actuels, notamment les gorilles et les chimpanzés. Et puis, pour ce qui nous concerne, donc, il a créé le taxon Homo sapiens. Alors, sapiens, ça veut dire à la fois sage, connaisseur, etc. C'est peut-être un peu beaucoup pour nous. Mais en tout cas, c'est vrai que le cerveau humain est certainement ce qu'il y a de plus complexe dans le monde du vivant. Et donc, étant taxonomiste, il a aussi voulu créer des variétés pour décrire ce qu'on voyait, et ce qu'on voyait surtout sous une forme continentale. C'était qu'effectivement, dans les récits des voyageurs, qui commençait à découvrir l'ensemble de la planète, sauf le Pacifique, on le verra, eh bien, chaque continent avait un petit peu sa variété humaine, avec une couleur de peau, avec des traits du visage, etc. Donc, en dehors de Homo ferus, qui est l'homme sauvage, là encore, qu'il a gardé, parce qu'on connaissait effectivement des histoires qui n'étaient pas très claires, il a décrit l'homme américain, l'homme asiatique, l'homme européen et l'homme africain. et plus tard, donc avec les récits des voyageurs qui vont jusque dans le Pacifique et dans l'Australie, on va compléter un petit peu cette classification, mais qui reste un petit peu dans l'esprit des gens, hein, celle des races. Hein. Alors là aussi, sur les races, il y aurait beaucoup à dire, un chapitre entier d'une causerie, mais disons que l'inné considère qu'on a des variétés à l'intérieur de Homo sapiens.
Oui, c'est très très intéressant, puis en même temps c'est très novateur, c'est très surprenant dans son optique d'homme religieux, enfin vraiment c'est tout à fait surprenant. Alors parlons un petit peu de paléoanthropologie à présent avec la diapositive suivante.
Oui, dans cet arbre du vivant, donc, on sait que nous avons des branchements, et quand on essaye de remonter au dernier branchement entre la lignée des chimpanzés, donc nos plus proches cousins, et la lignée humaine, on a des spéculations génétiques. C'est un petit peu comme pour l'histoire de Lucas, c'est-à-dire qu'on part de l'ADN, on a ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, qui est un calendrier de mutations. On estime que les mutations ont une certaine chronologie et que donc plus il y a de mutations, plus le temps s'est écoulé. Donc on peut spéculer sur l'ancêtre commun des chimpanzés et des humains par la génétique, et on va la situer à 7 ou 8 millions d'années. Et puis on peut essayer de vérifier par les découvertes de fossiles, par la paléoanthropologie. Et le mérite du professeur Brunet, qu'on voit là dans la ligne humaine, c'est lui, Brunet, c'est d'avoir été chercher au Tchad des ancêtres de l'homme. Et il a trouvé ce crâne, familièrement appelé Toumaï. Alors lui l'a appelé Sahelanthropus tchadensis, ce qui est un petit peu exagéré à mes yeux, c'est-à-dire que Sahelanthropus, homme du Sahel, non, ça n'est pas un anthropus, c'est un primate non humain, mais il a quelques signes, notamment sur la position du trou occipital ou sur la forme de la canine, qui le mettent un petit peu sur la voie de l'hominisation. Et on a un autre fossile qui s'appelle Aurorine, qui est trouvé par ma collègue Brigitte Sénu du muséum au Kenya. Pas de crâne, mais un fémur de bipède. Donc on pense que la bipédie est acquise, vous voyez, sur l'échelle chronologique entre 7 et 6 millions d'années. Et de là, on a en fait un gros buissonnement hein, qui est très simplifié ici, avec des branches latérales, tous les australopithèques, graciles, robustes, les paranthropes, etc. Mais au terme de ce buissonnement et de très nombreuses espèces, on arrive par élimination à une seule espèce, la nôtre, alors qu'il y a quelques centaines de milliers d'années, il y avait plusieurs espèces humaines ou préhumaines qui cohabitaient.
Alors on va voir justement ce qui fait de nous des hommes, entre autres, hein, c'est le cerveau, et c'est ce qu'on voit là sur l'évolution.
Oui, il y a donc cette bipédie qui a abouti par un cheminement qu'on ne comprend pas encore entièrement, mais qui a abouti à la libération des forces musculaires sur le crâne et une très forte poussée du cerveau. Vous voyez que pratiquement, on part donc de Lucie, par exemple, qui est une australopithèque qui a un peu plus de 3 millions d'années. Elle n'est pas très grande, hein, mais son volume cérébral, c'est celui d'un chimpanzé, sur 400-450 cm3. Et on aboutit chez nous à 1300, 1400, 1500 cm3 en 3 millions d'années, ce qui est relativement rapide hein, en termes d'évolution. On voit qu'il y a une très forte pression de sélection pour acquérir un cerveau plus performant, plus volumineux. Et c'est ce que cette courbe rappelle. Et un des éléments, c'est là qu'on voit que l'évolution, notamment chez l'homme, c'est une évolution bioculturelle. C'est une invention, c'est l'invention du feu. Le feu, donc il y a un peu plus d'un million d'années, a été découvert et a été reproduit et a permis notamment, entre autres, la cuisson des aliments. Ça a bouleversé notre physiologie digestive, mais ça a aussi apporté beaucoup de calories plus facilement assimilables. Et on sait que le cerveau, c'est un organe qui est extrêmement gourmand en énergie. Sur le métabolisme de repos, il consomme déjà 20% de tout ce qu'on dépense comme calories au repos. Et donc, pour nourrir ce cerveau de plus en plus exigeant, eh bien, le feu, qui est une invention totalement innovante, mais culturelle, a permis aussi l'accélération de l'augmentation du volume cérébral et donc aboutir à cet Homo sapiens qui, finalement, maintenant, grâce ou à cause de son cerveau, bouleverse entièrement la planète.
Oui, là, oui, tout à fait. Alors, Voyons un petit peu aussi, ben, on continue là sur l'évolution des crânes que l'on distingue assez bien, puisqu'on parlait de domestication, on parlait d'évolution de l'humain, du feu, puis ensuite du néolithique et de la culture. Donc on aperçoit un petit peu des choses qui nous permettent d'illustrer ces propos.
Oui, une théorie qui est assez intéressante, qui est celle de l'autodomestication. C'est-à-dire qu'on sait qu'au néolithique, donc il y a moins de 10 000 ans, avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, etc., il y a eu un optimum qui a permis, à peu près sur tous les continents, de domestiquer la nature, que ce soit les plantes ou les animaux. Donc ici, à gauche, on voit la différence entre un crâne d'auroch, hein, qui est l'ancêtre du bœuf, des taurins, et un crâne de vache domestique. On voit qu'il y a une perte de volume, notamment du volume du cerveau, et aussi des superstructures, puisqu'un animal domestiqué n'a plus besoin de se défendre dans la nature. Il n'a pas non plus besoin d'un cerveau aussi performant qu'à l'état sauvage. Et donc certains anthropologues ont imaginé que nous-mêmes, nous étions, bien avant la domestication des plantes et des animaux néolithiques, il y a bien plus longtemps que ça, nous étions nous-mêmes autodomestiqués en vivant en société, en nous imposant des règles. Et donc ce qu'on a appelé le singe nu, qui est devenu le membre d'un zoo humain, c'est-à-dire que nous nous sommes nous-mêmes enfermés dans un zoo, hein, qui sont les villes, etc., et en gardant quand même quelques instincts sauvages. Et donc dans l'image de droite, on a un crâne d'Homo sapiens archaïque africain du Zimbabwe, Homo rhodesiensis, l'homme de Rhodésie, et l'homme de Cro-Magnon éponyme, celui que nous conservons précieusement et que nous exposons au musée de l'homme. Et on voit effectivement qu'il y a notamment une perte des superstructures les plus robustes, une espèce de gracilisation. Et cette gracilisation, ce qu'on appelle une pédomorphisation, c'est-à-dire une tendance à aller vers un crâne plus infantile, c'est une évolution qui se poursuit de nos jours.
Ah, toujours.
Oui, l'homme continue d'évoluer. Alors, il évolue davantage sur le plan invisible, c'est-à-dire sur le plan des mutations. Par exemple, c'est depuis le néolithique qu'on a acquis la faculté de digérer le lait. Mais tous les humains ne l'ont pas acquise. Hein. C'est une mutation qui est apparue dans certaines zones. Et puis également la faculté de métaboliser l'alcool. Ça peut être utile. Et également la perte de la mélanine pour devenir plus clair en Europe. Tout ça sont des mutations relativement récentes parce que la morphologie, elle évolue lentement. Mmh. Vous voyez le crâne qu'on a trouvé au Maghreb, au Maroc, qui a 300 000 ans, le premier Homo sapiens, il ressemble quand même beaucoup à l'homme actuel. Donc l'évolution morphologique, elle se fait sur les dizaines de millénaires, tandis que l'évolution génétique, elle survient tout le temps, et d'autant plus qu'on est plus nombreux sur la Terre. Alors ça a aussi un prix, parce que la néolithisation, ça a été également la sédentarité, et donc l'apparition de maladies métaboliques, et on le voit sur cette diapo-là, qui montre des singes, donc des primates, des macaques ici, dans un zoo qui deviennent sédentaires et obèses, nos animaux domestiques, bien sûr, qui payent aussi le prix de cette sédentarité. Le chat, là, il est un peu loin de son cousin, le jaguar. Oui. Et puis, à gauche, bon, dans mes jeunes années au Cameroun, la rencontre avec les pygmées, j'ai beaucoup travaillé chez les pygmées du Cameroun. Et vous voyez que même chez les pygmées qui sont des chasseurs-cueilleurs, les derniers chasseurs-cueilleurs qu'on connaît, eh bien, il y a des phénomènes d'obésité qui apparaissent parce que leur mode de vie est bouleversé. Et donc, pour conclure, puisqu'il faut bien conclure cet entretien, cette image, c'était tout simplement pour rappeler, justement, depuis 3 à 4 millions d'années, depuis que Lucie et son compagnon, vous voyez ici, Lucie est enceinte, c'est-à-dire qu'elle porte en elle tout le lignage qui va conduire à nous, eh bien, en 3 millions d'années, vous voyez ce paysage de savane avec les éruptions de volcans qui ont permis, d'ailleurs, de retrouver les pas de Lucie, des traces de bipédie. Eh bien, vous avez aussi cet astronaute qui signe donc cette aventure humaine merveilleuse qu'on peut rappeler donc dans cette évolution phylogénétique que nous avons rapidement parcourue.
Bon, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous propose de passer à la dernière diapositive. En fait, c'était pour rappeler que si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, vous pouvez le faire à travers cet ouvrage d'Alain Froment, L'anatomie impertinente. Vous avez compris que nos propos l'étaient très souvent ici. Et je vous propose de nous retrouver très bientôt. Je vous remercie à nouveau, Alain Fromont, pour cet entretien extraordinairement passionnant. Et puis, poursuivons nos aventures très bientôt avec Alain Fromont sur nos réseaux. Alors, sur la page Facebook ou la page YouTube de l'Université numérique de La Réunion ou sur nos sites internet unr.univ-réunion.fr. À très bientôt.